Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un très beau récit, celui d'une mère qui s'adresse à son fils à naître. Elle parle au bébé, elle parle de ses parents et de ses grands-parents, et l'on découvre au fil des pages le récit d'une quête d'identité, celle de cette jeune femme au destin pas banal, née à Iași, dans la région moldave du nord-est de la Roumanie, en décembre 89, en même temps qu'éclatait la révolution roumaine qui allait abattre la dictature communiste. Elle s'appelle Nili et elle est la fille d'Elena, professeure d'université roumaine, et d'Exocé Makassi, un Congolais engagé qu'elle n'a jamais pu connaître. De Bucarest à Goma, en passant par Paris et Kinshasa, plongée dans un destin familial singulier au sein duquel se côtoient la honte et la fierté, la haine et l'amour, la violence et l'espoir. La mer noire dans les grands lacs d'Annie Lulu est parue chez Julliard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Annie Lulu.
Bonjour.
Il y a une image qui vient très vite quand on lit votre livre, c'est l'image de cette jeune femme assise au bord du lac. Il s'agit du lac Kivu, hein, puisque nous sommes à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et elle s'adresse donc au bébé, au petit garçon en train de grandir dans son ventre. Pour quelle raison avez-vous eu envie de commencer votre récit par cette image-là ?
Au départ, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, c'était pas du tout mon choix. Nili était une jeune femme qui était en interaction énormément avec d'autres personnes et puis elle bougeait, enfin il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, de dialogues et cette grossesse est arrivée à un certain moment de l'écriture et puis petit à petit sa voix est devenue celle d'une mère et je l'entendais et j'avais envie que le lecteur puisse retrouver un petit peu cet écho de la voix de Nili que j'avais et donc ça nécessitait qu'elle soit immobile et puis pour entrer dans cette intimité il fallait aussi être tout proche de la naissance de cet enfant.
Ça veut dire que vous avez dû tout revoir, puisque si l'idée vous est venue en cours de rédaction, parce que on est dans quelque chose à la fois de très écrit et en même temps de très oral. Comment vous avez placé le curseur justement entre les deux ?
J'ai tenté plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs focalisations. Des personnages ont disparu, d'autres ont pris davantage de place. Et puis Nili, c'est une jeune femme qui m'a vraiment donné envie, entraîné à l'accompagner. Et c'est peut-être cette relation d'intimité qui se crée avec votre personnage au fur et à mesure que vous lui donnez vie, que vous lui donnez naissance, qui favorise, je pense, le fait de suivre, de lui faire confiance à un moment donné, de suivre son propre parcours à elle pour pouvoir écrire à partir de son regard, à partir de sa voix.
Oui, vous lui donnez naissance, venez-vous de dire, Annie Lulu, et c'est vrai que c'est une histoire de naissance. D'ailleurs, dès le premier chapitre, donc dans cette scène où elle est, donc, je le répète, à côté du lac Kivu, avec son bébé dans le ventre, et elle lui parle à ce bébé, elle lui dit « c'est ici que tout commence ». Ces quelques mots qui ont l'air tout simples, « c'est ici que tout commence », elle les adresse à son fils, mais au fond, elle les adresse aussi un petit peu à elle-même, non ?
C'est un constat qu'elle fait. Peut-être que c'est au moment où elle s'apprête à devenir mère, au moment où elle s'est réalisée en tant que femme, en cherchant, en trouvant ce qu'elle cherchait, que sa vie commence véritablement.
Oui, c'est un nouveau départ, en fait, cet enfant.
C'est sa propre naissance à elle, à travers la naissance de cet enfant qui a lieu au bord de ce lac Kivu.
Oui, on sent effectivement qu'à travers la naissance de son fils, elle pourra enfin réellement être elle-même, car elle ne veut surtout pas que son fils connaisse tout ce qu'elle a vécu, connaisse les affres de ses interrogations autour de son enfance. Nous sommes à la page 13 de votre roman.
Par où ta nuit commence ? C'est comme te tremper dans un bain de senteurs, avec la mer en dedans, retenant le varech et le mouton des vagues, et tout ce que tu pourrais imaginer de beau après le crier poumonné pour te sortir du monde. C'est comme sortir du monde en cavalcade, en chaleur, te rejoindre toi-même dans les yeux plissés d'un visage qui domine l'aube, et ton corps, à chaque fois que tu fermes les yeux, chaque fois que t'emportes la houle de Tamarin et de Jacques qui te fait respirer, poser tes cuisses sur l'aine et ton front sur les lèvres qui ne te quitteront plus. Les poumons humides et la voix moite, aussi longtemps que le remous qui t'a appelé dur, soupire et recommence. Avant que je te raconte, c'est ce que tu dois savoir qu'on t'a appelé deux fois, qu'on t'a étreint en suffoquant la sueur avec ton père dans des noyades désarmantes, dans la splendeur de ce pays. On t'a appelé deux fois pour que tu viennes mûrir le mangoustan charnu découvert sous nos ventres, le roulis liquide d'un arbre à fruits d'espérance. Tu t'es retrouvé là, à émerger au tempo de l'ardeur où vibrait le cahotement de cette histoire de peau qui nous a ballottés et qu'on appelle l'amour. Ce n'était que deux nuits dans le champ des insectes et d'un ventilateur, dans une maison de bois entre les vieux bâtiments, À l'est du cœur du monde, à l'est de tout espace, à l'abri dans l'étendue de cet amour immense depuis lequel ton père t'a dessillé de toutes ses fibres et de tout son rythme joyeux, pour que tu vois toi aussi, tôt ou tard, combien c'est bon d'aimer. Alors moi, je te parle entre les côtes, depuis ce bord de lac calme, depuis l'odeur qui s'y est accrochée. Et toi, mon fils, écoute bien tout ce que je vais te dire. Je ne pourrai pas répéter. Ce sera dur de dire deux fois cette histoire, jusqu'au glissement lent de ton père dans le plein de ma nuit.
Qu'est-ce qu'elle est belle, votre langue. Annie Lulu, là, pour le coup, on est dans quelque chose d'extrêmement écrit.
Ah oui, on est dans le travail, enfin, le fruit d'un travail. Et c'est vrai que j'ai...
Un travail, on en est encore à la maternité et à l'enfantement. Là,
exactement, il y a cette idée que finalement la vie naît du fruit de ce travail, de cette macération permanente et de toute cette végétation qu'il faut dompter. Et pour moi, la langue, c'est peut-être un peu ce rapport-là que j'ai à l'écriture. Ouais.
Alors cette jeune femme, Annie Lulu, elle s'appelle donc Nili Makassi. Elle n'a pas connu son père, hein, parce que sa mère a tout fait pour l'en empêcher, pour l'effacer de sa vie, je crois que c'est le mot que vous employez. Elle a longtemps en fait cru que son père était un lâche, qu'il les avait abandonnés à sa naissance, elle et sa mère. En fait, c'est pas du tout ça. Elle s'en rend compte assez vite, enfin le lecteur s'en rend compte assez vite dans le roman. Le mauvais rôle, c'est pas le père, c'est la mère.
Alors, oui et non. Oui, parce que bien entendu que Nili n'a pas grandi avec son père, donc elle a connu cette absence qui a été pour elle déchirante, extrêmement dense, puisque c'est une absence qui a provoqué chez elle une colère, une haine à l'attention de cette figure paternelle. Et elle dit même à un moment donné, moi je voulais retrouver mon père pour lui casser la gueule.
Voilà,
enfin,
clairement,
c'est,
ouais.
C'est clairement ce qu'elle éprouve, ce qu'elle ressent. Et puis lorsqu'elle va découvrir à l'âge adulte que son père, au contraire, a voulu être présent dans sa vie, bien entendu, son regard va changer et elle va connaître une sorte comme ça d'ouverture, de métamorphose intérieure. Et en même temps, la mère de Nili, cette coupure qu'elle a introduite dans la vie de son enfant, c'est aussi une coupure qu'elle-même a faite lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte de sa fille. Nili n'était pas une enfant qui a connu sa famille maternelle non plus. Et elles ont vécu toutes les deux, sa mère et elle, très isolées dans un petit appartement où il y a une grande pièce, voilà. Et elles ont traversé comme ça la vie l'une de l'autre dans cet isolement, en fait. Et peut-être que quelque part, Elena, la mère de Nili, cherchait à la protéger des obstacles qu'elle pensait que sa fille devrait affronter en grandissant. Et cette absence, elle l'a probablement façonnée, provoquée, et puis façonnée aussi dans une perspective de force et de résistance à ce qu'elle pensait devoir être le sort difficile de son enfant.
Alors le père de Nili est un étudiant congolais qui est venu étudier à l'université à Bucarest. C'est là qu'il a rencontré la mère de Nili. Peut-être faut-il expliquer à Annie Lulu comment et pourquoi, dans les années 80, un jeune Congolais a débarqué comme ça en Roumanie.
Oui, ça paraît assez insolite, mais en fait, il existait entre les deux gouvernements, les deux régimes de l'époque. D'une part, on parle du Congo RDC, de l'ex-Zaïre sous Mobutu, la possibilité pour de nombreux étudiants qui recevaient des bourses au mérite, par exemple, des bourses d'excellence, ou avaient la possibilité de voyager parce qu'ils venaient d'un milieu privilégié, d'aller faire leurs études à l'étranger. Et d'autre part, pour la Roumanie de Ceausescu, c'était aussi une façon de promouvoir une société socialiste future qui passerait par la coopération avec tous ces jeunes cerveaux brillantissimes qui venaient des pays nouvellement indépendants. Et il y a eu comme ça une sorte d'amitié, d'échange de cerveaux dans ce sens-là entre la Roumanie de Ceausescu et le Zaïre de Mobutu.
Et c'est donc dans ces circonstances que ce jeune Congolais nommé Exaucé Makassi Motembe a rencontré Elena et que de leur union est née la petite Lili. Alors ils ne se sont pas mariés. Il faut dire, et vous l'expliquez, Annie Lulu, que ça aurait été quand même assez compliqué, hein, ce mariage.
Oui, tout à fait. À l'époque, la majorité pour les jeunes femmes roumaines était à 21 ans, donc on pouvait se retrouver étudiante plusieurs années en étant toujours mineure. Rencontrer un étranger, d'où qu'il vienne d'ailleurs, d'Afrique ou d'ailleurs, était très problématique, et entretenir une relation d'amour avec un étranger était très problématique et c'était pas véritablement permis. Et toute, la pesanteur administrative qui permettait le mariage autorisé par un décret présidentiel, souvent au terme de plusieurs années de procédure, était mise en œuvre de façon à ce que finalement les jeunes gens qui venaient repartent.
Voilà, donc le contexte de la naissance de la petite fille, Nili qui naît à une date extrêmement particulière, puisqu'elle naît en décembre 1989, en même temps que la Révolution roumaine, archive de nos confrères de France 3.
Alors qu'à l'Est, les régimes communistes s'effondrent, la Roumanie s'isole et ne bouge pas. Pourtant, depuis novembre dernier, apparaissent les premiers signes avant-coureurs de la chute du vieux conducteur. 24 novembre, 14e congrès du Parti communiste, Nicolae Ceaușescu est réélu à l'unanimité. 29 novembre, Nadia Comăneci, l'enfant chéri du pays, médaillée aux JO de Montréal en 76, fuit la Roumanie et gagne les États-Unis. 15 décembre, Timișoara, les autorités tentent d'arrêter le pasteur protestant Laszlo Tokes. Des centaines de manifestants entourent le temple pour protéger le pasteur et sa famille. 17 décembre, Timișoara toujours, les premières émeutes éclatent. 18 décembre, la Roumanie ferme ses frontières. Ceaușescu s'envole pour Téhéran. 19 décembre, la Roumanie s'embrase. Les troupes encerclent Bucarest. 21 décembre, Bucarest. À son retour d'Iran, Ceaușescu organise un gigantesque rassemblement à sa gloire. La manifestation se retourne contre lui. Il est conspué. Regagne précipitamment son palais. La sécurité tire sur la foule. 22 décembre, l'armée se joint au peuple. Quelques minutes plus tard, la Roumanie sera libre.
Et c'est donc dans cette Roumanie nouvellement libre que va grandir votre personnage, la petite Nili, sans père, mais auprès de sa mère, Nilulu. Une Roumanie libre peut-être, mais tout sauf une Roumanie joyeuse. Il y a un mot d'ailleurs que vous utilisez à plusieurs reprises dans votre récit pour décrire cette atmosphère, c'est le d'or. C'est quoi le d'or ?
Ah là là, est-ce que je peux dire en quelques secondes ce que c'est que le d'or ? Ça va être très difficile, mais disons que le d'or, Nili en parle, mon personnage essaye de d'expliquer un peu ce que c'est. C'est une sorte de spleen ou de blues roumain. C'est cette vie âcre, douce, mêlée à la tristesse et à la nostalgie que chacun, que tout Roumain connaît et a éprouvé, et qui conduit à un état très particulier, voilà, de nostalgie, de tristesse mêlée avec une sorte de douceur et de plaisir de vivre de façon intense aussi ce moment-là.
C'est aussi une Roumanie, celle dans laquelle votre personnage grandit, où le racisme ordinaire tient le haut du pavé. Elle en a souffert, Nili, du racisme dans les rues des villes.
Alors Nili transmet à son fils l'expérience de ces moments où le rejet xénophobe s'est condensé, s'est vraiment manifesté et a marqué sa mémoire. C'est une jeune femme qui pourtant a grandi dans un environnement très très protégé et a accédé à l'université. Et donc,
sa mère était professeure,
oui, bien sûr,
de lettres
sa
à l'université.
Mère, tout à fait. Et donc elle a quand même bénéficié d'une forme comme ça de protection, d'ouverture sur le monde, et elle a pu quand même grandir et s'épanouir un peu dans la société roumaine. Mais ceci dit, les moments qui l'ont marquée, qui l'ont conduite à dire que finalement c'est ce monde qui l'a mise dehors, ce sont ces moments où elle a compris, on lui a fait comprendre qu'elle n'était pas à sa place. Alors oui, le racisme ordinaire, probablement, malheureusement répandu. Je veux dire, la Roumanie, c'est un territoire, un lieu où ce personnage a vécu cela, et elle aurait pu le vivre à plein d'autres endroits avec cette intensité et cette force-là. Mais c'est vrai que ce sont des expériences qui l'ont énormément marquée. Oui.
Et des expériences que vous relatez avec des mots très forts. Hein. Je n'étais, dit Nili, je n'étais qu'une moitié de primate, ou bien un être surnaturel pour les plus niais d'entre eux, en parlant de ceux qu'elle croise dans la rue, souvent avec sa mère. Il y a d'autres gamins qui la montrent du doigt et qui crient « Maman, regarde le singe !» C'est quand même extrêmement violent. Et la violence des mots, elle s'inscrit aussi dans l'incipit de votre livre, dans une phrase prononcée un jour par la maman, par Elena, qui dit à sa fille « Je cite « J'aurais dû te noyer quand t'es né, j'aurais dû t'écraser avec une brique. »
Elle est le fruit, Nili, d'une erreur. Elle est le fruit d'un désir non assumé. Sa mère était une jeune étudiante brillante qui a rencontré son père, un étudiant congolais, et son désir est allé vers cet homme. Et elle s'est permis cette rencontre. Et puis lorsque elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, une panique terrible, épidermique, physique, s'est emparée d'elle. Et elle a tout fait pour essayer de corriger ce qu'elle a estimé être l'erreur de sa vie, en quelque sorte. Sa fille, donc, Nili, oui, comme une erreur, comme un être imparfait, comme un être incomplet, et qu'il faut emplir et corriger et guider sur un chemin qui soit exempt du corps, sur un chemin qui soit en dehors du désir. Enfin, oui, il y a ce désir non assumé chez sa mère qui l'a conduite à opprimer le corps de sa fille.
Et pourtant, elle a des ambitions universitaires extrêmement élevées. Elle lui donne à lire des écrivains noirs, Césaire, Peter Abrams. Elle a envie que sa fille devienne la spécialiste roumaine des littératures noires.
Oui, bien sûr. Elle se dit que de toute façon, son enfant ne peut pas entrer en concurrence, entre guillemets, avec des jeunes roumains ou roumaines normaux de sa génération et que de cette différence, il va falloir faire un atout de façon à ce qu'elle puisse peut-être un jour s'échapper d'un monde étouffant et en tout cas de manière aussi à justifier sa propre erreur qu'a été cet enfant. C'est-à-dire que... bien maintenant, tu es là, tu existes, mais... seulement dans l'excellence, sinon je ne l'accepte pas.
Jamais des livres n'ont pu remplacer un père, ajoutez-vous, Annie Lulu. Et pourtant, la petite Nili lit Sonny Labutansi, elle lit Chikaya Utamsi, elle les appelle mes pères de nuit. Ça veut dire que ces écrivains-là ont aussi participé à sa construction personnelle?
Oui, à son imaginaire en tout cas. Ils ont nourri l'imaginaire qu'elle a fondé, ou en tout cas qui s'est déployée en elle lorsqu'elle a pensé à son rapport à son père, et puis aussi le propre regard qu'elle a dû essayer d'apprendre à déployer sur elle-même en grandissant pendant son adolescence. Et effectivement, la lecture comme ça a été une sorte de substrat pour remplacer cette absence, ou de matière qui viendrait comme ça colmater cette absence. Mais évidemment que ça ne remplace pas la filiation humaine, ça ne remplace pas la présence humaine. Oui.
Et ils vous ont nourri aussi ces livres-là, vous-même, Annie Lulu, parce qu'il y a tout au long de votre récit des citations très courtes, notamment en épigraphe des chapitres, mais pas seulement, on sent que vous avez aussi baigné là-dedans.
Ah oui, alors bon, moi j'ai, toute jeune adolescente, découvert la poésie à la bibliothèque municipale à côté de chez moi. Et puis, petit à petit, des auteurs qui m'ont énormément marqué, parmi lesquels Paul Celan, qui était un poète roumain, René Char, dont j'admirais la figure comme ça extraordinaire de résistance, cet homme qui se tient debout. J'ai découvert Aimé Césaire. Et puis, petit à petit, à la fin de mon adolescence, au début de ma vingtaine, Chikaya Utamsi et Sonny Labutansi m'ont véritablement forgé comme ça une sorte de matière nouvelle qui viendrait se mêler ou se mélanger à toutes ces lectures qui m'avaient nourri beaucoup plus tôt.
Alors je suis obligée de vous poser la question, est-ce que Nili c'est Annie?
Alors non, Nili ce n'est pas Annie. Nili, c'est une jeune femme avec laquelle j'ai vécu, en quelque sorte, parce que c'est un personnage qui vient de mon invention, de mon travail d'imagination, mais qui a pris son envol, son autonomie, et qui m'a invitée à faire un voyage avec elle. Oui.
Legend. évidemment reconnu.
Oui, c'est le morceau Fuma de Dimba Diongola, qui est un groupe angolais, un morceau des années 70, et qui est cet air que Nili a dans la tête tout au long de son récit.
Bon, on peut trouver ça étonnant, parce qu'il est angolais, effectivement, il n'est pas congolais.
Tout à fait. Mais en faisant son voyage, et puis en découvrant qui était son père, elle va finir par se rendre compte qu'il y a une communauté de destin entre tous ces peuples, du Rwanda à l'Angola. Et c'est cette prise de conscience d'être la fille du peuple congolais, mais aussi la fille d'un grand peuple africain qui va la pousser à s'engager, à aller vers la vie collective. C'est vraiment cette lucidité et qui est en même temps une sorte de... peut-être aussi d'échapper comme ça vers son dor roumain, là, pour le coup. Parce qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose du dor dans cette chanson.
Même si c'est une chanson angolaise. Cette chanson, elle revient aux oreilles, dans la tête de Nili, dans son petit studio sous les toits de Paris, car elle va débarquer à Paris. Elle obtient une bourse pour continuer ses études en France. C'est la première fois qu'elle prend l'avion. Et le premier contact avec la capitale française, c'est vraiment un émerveillement. En particulier le métro. Ça la frappe beaucoup. Le métro, elle dit, enfin vous écrivez, une voiture de métro à Paris, c'est une sorte d'entonnoir de géographie.
Bien oui, elle se retrouve soudain au milieu de personnes qui ont des visages. Et au milieu de tous ces visages, le sien n'est plus si spécial. Sa présence à elle n'est plus si singulière ou si remarquée comme c'était le cas auparavant. Et elle finit par devenir un fil dans un tissu multicolore. Et c'est ce sentiment de bien-être et d'enthousiasme extraordinaire qu'elle éprouve lorsqu'elle arrive à Paris, d'autant plus que, bien sûr, elle s'échappe du carcan maternel. C'est une jeune femme qui n'a pas eu beaucoup d'amis, de connaissances. Et elle arrive comme ça dans un grouillement de vie, de langues différentes qui l'entourent et de mœurs nouvelles, et pour habiter à Châteaurouge.
Oui, Châteaurouge, dans le 18e arrondissement, quartier à forte population afro-caribéenne. Et ça lui fait progresser énormément, cette présence dans ce quartier-là. Vous écrivez « L'arôme de l'Afrique grandit à Châteaurouge ». Elle va donc petit à petit s'acclimater à son histoire, à la stalle de son père.
Oui, elle va s'acclimater, alors déjà tout simplement en mangeant des choses qu'elle ne connaissait pas et qui lui plaisent, en écoutant des langues qu'elle n'a jamais entendues dans la rue avant, et puis un jour en entendant son nom au gré d'une conversation, nom dont elle ignorait absolument Makassi, qu'il signifiait quelque chose en lingala. Et elle va le découvrir à Châteaurouge.
Elle apprend effectivement quelques rudiments de lingala. Hein. Elle pique un bouquin dans une librairie. Elle veut apprendre la langue de son père. Est-ce que vous avez été tentée, Annie Lulu, de donner une place plus grande au lingala dans votre récit?
Alors, tenter, je ne sais pas. En fait, dans l'esprit de Nili, dans la langue de Nili, il y a cette recherche, et cette recherche d'elle-même, c'est la possibilité de réunir des univers qui normalement n'auraient jamais dû se rencontrer, dont elle est l'enfant, dans son être à elle. Et cela passe par quelque chose d'assez physique finalement, qui est la parole. Et cette parole qui lui a manqué, cette parole maternelle, chaleureuse, ludique, dont elle a manqué enfant, elle va finir par aller la chercher ailleurs, vers la langue de son père, puisque elle n'accède pas à son père physiquement, elle ne sait pas où il est, elle ne sait pas ce qu'il fait, et c'est une façon pour elle de rentrer en connexion par une sorte comme ça de vibration, de fréquence sonore à travers le lingala. Mais cela arrive chez elle à l'âge adulte, et c'est pourquoi le lingala est présent, extrêmement présent, à partir du moment où le voyage vers le Congo se dessine, mais dans le récit, mais pas dans tout le récit, parce que c'est une jeune femme qui a été forgée à partir d'une autre langue. Et cette musique originaire du roumain, du dor et de son expérience faite de blessures jusqu'à l'âge adulte était aussi très importante pour moi à déployer dans ce texte.
Alors on ne dira pas comment, mais elle va finir par retrouver la trace, non pas de son père, mais de sa grand-mère. Nous sommes à la page 137 de votre roman.
La soirée s'est affaissée vers la fraîcheur. Une cousine m'a installée dans la chambre d'exaucée. Il y avait un lit étroit, aux draps roses usés, une bibliothèque, sur une étagère, un fer à repasser à la semelle brûlée, une vieille édition des poèmes de Rimbaud, un livre en portugais sur la vie d'Amilcar Cabral, des fascicules, deux tracts au papier jauni glissés dans un volume écorné des années 60 ou 70, écrit en anglais, gribouillé à certaines pages par le feutre d'un enfant, la couverture arrachée au dos sur lequel on pouvait lire « Africa must unite » Kwame Nkrumah. À côté du lit, dans le tiroir d'une petite table de chevet pour fillette en plastique bleu, j'ai trouvé des objets. Un jeu d'échecs miniature aux pions aimantés, presque tous manquants, des photos de livres et de journaux découpés dont une montrant deux hommes assis sur un canapé face à un micro. L'un d'entre eux, j'ai reconnu Thomas Sankara, posait sa main sur le bras de l'autre coiffé d'une casquette de révolutionnaire. Il s'agissait d'un portrait de Samora Machel et de Thomas Sankara. Au dos, au stylo, ces deux phrases entre guillemets avec une rature. « Nous nous sommes réveillés, nous ne dormirons plus. » Était-ce l'écriture de mon père ? Posée sur le meuble miniature, une Bible à la couverture rouge. Je l'ai ouverte et y ai trouvé une photographie ancienne. On y voyait Patrice Lumumba jeune, accompagné d'un autre garçon, en chemise et cravate, souriant contre le mur d'une maison. Tous deux portaient des lunettes. Le dos de la photographie n'avait aucune indication, pas même une date. Elle semblait authentique, sûrement prise à la toute fin des années 50. Derrière la porte et derrière la fenêtre de cette chambre de plein pied, les voix de mes oncles encore assis sous le manguier, à la table où nous avions dîné, s'étiraient vers la nuit. Voix gorgées des plats de grand-mère au moilly, de bouteilles de primus et d'une mangue cueillie dans cette cour même et partagée avec l'éparpillement de chaque silhouette vers les chambres ou vers la rue. Mon cœur battait, mon fils, comme jamais auparavant. Impossible de fermer l'œil dans cette odeur, avec toutes ces images. Dans cette pièce mystérieuse, ma première nuit à Kinshasa. Je commençais à comprendre qui était exaucé Makassi Motembe, à deviner sa stature, découvrir l'ampleur de sa force.
Passionnante hein, la description de cette chambre Annie Lulu, passionnante pour comprendre qui était le père de Nili, Rimbaud, Kwame Nkrumah, Sankara, Machel et surtout Lumumba. Ça résume toute une vie ces figures tutélaires-là.
Je ne sais pas si on peut dire que ça résume une vie. En tout cas, elle va finir par entrer en résonance et en connexion alors mentale et spirituelle avec son père. En rétablissant sa filiation, elle va finir par avoir accès à ce lieu qui est la chambre où son père a dormi, a grandi.
Et avoir
exactement. Et accès à ses objets, à des photographies, à des livres. Et pour reprendre cette phrase de Nkrumah, c'est là que l'Afrique va naître en Nili. C'est ce moment qui va faire d'elle une Africaine. C'est le moment de la chambre de son père et c'est le moment où elle comprend l'étendue de qui est cet homme. Enfin, elle comprend de qui elle est la fille, d'un homme debout.
Alors, Patrice Lumumba, l'une des grandes figures de l'indépendance et de la lutte contre la colonisation, est évidemment une figure très importante de l'histoire du pays qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Vous faites d'ailleurs un développement assez long sur la colonisation, Annie Lulu. Il y a un mot, dites-vous, le mot colonisation, qui a été inventé, écrivez-vous, par ceux qui l'ont pratiqué et la pratiquent toujours. Et vous ajoutez, ou plutôt Nili ajoute, ce sont toujours ceux qui gouvernent par la violence à qui manque la beauté. Faut-il s'excuser de la colonisation, Annie Lulu ?
Oh, moi ce qui me préoccupait...
C'est un débat politique d'actualité.
Oui, bien entendu. Ce qui me préoccupait quand j'ai écrit ce passage, La voix de Nili, c'est d'abord comment transmettre ? Qu'est-ce qu'elle va dire à son fils qui va naître sur ces passages, ces moments de blessures énormes, sur ces moments de déchirure historique mais aussi humaine parce qu'ils ont traversé l'histoire de sa famille. Et comment transmettre ça à un enfant ? Et par quelles paroles ? Et Nili choisit la description physique est très crue. Ce sont des mots qu'un enfant ne devrait jamais entendre. Ce sont des images mentales qu'il ne devrait jamais imaginer. Mais elle veut réparer le silence qu'elle-même a connu enfant et choisit la parole pour transmettre. Alors s'excuser, ne pas s'excuser, je pense que c'est surtout la question de la transmission qui est importante, c'est-à-dire comment, à partir d'une blessure énorme, la parole ne doit jamais s'éteindre, jamais être coupé. Il faut à tout prix essayer de ne pas introduire cette rupture de la parole pour pouvoir s'approprier qui on est et le transmettre. C'est ça le plus important.
Mais le mot colonisation, est-ce que c'est un mot qu'il faut rejeter ?
Alors je ne sais pas si c'est un mot qu'il faut rejeter. Ce que Nili dit, elle a des mots extrêmement durs. Mmh. C'est une jeune femme qui est comme ça, qui a une très grande dureté, une lucidité, mais qui est associée à une très grande dureté des émotions, des sentiments et même dans sa pensée sur un certain nombre de choses et notamment sur la colonisation. C'est un mot qu'il faut rejeter probablement pas parce qu'il décrit tout simplement des faits. Mais ce qu'elle dit, qui est, je trouve, intéressant peut-être à explorer ou auquel on peut réfléchir, c'est d'où viennent les mots ?
La colonisation passe aussi par les mots.
Mais oui, ça passe également par les mots. Alors, se réapproprier ces langues, par exemple, ce qu'elle essaye de faire en essayant d'apprendre la langue de son père, c'est une façon de sortir de ce regard, de ce contexte, de ce paradigme culturel dans lequel elle a grandi et tenté de s'épanouir et ça a mené à un échec, quelque part, pour essayer d'ouvrir son regard vers ailleurs et peut-être vers des mots qui charrient d'autres réalités.
Et Nili va quitter Kinshasa, elle va partir dans l'est de la République démocratique du Congo. Une vraie prise de risque hein, à l'époque où se passe ce récit. Vous nous rappelez le contexte, Nili ?
Alors là, on est au tournant des années 2015-2016. Nili a 25 ans passé et puis elle décide d'aller à Goma puisque c'est là qu'est né son père. Et donc elle veut à la fois récupérer les lettres que son père lui a écrites durant toute son enfance et qui s'y trouvent et en même temps découvrir le lieu de la naissance de son père pour pouvoir s'inscrire dans cette filiation.
Et c'est à Goma qu'elle va rencontrer le père du bébé qu'elle porte. On en parle dans un instant. Charles Mombaya dans VMDN sur RFI, un gospel congolais. On peut dire, Annie Lulu, que le père du bébé que porte Nili, c'est un peu le fils de Patrice Lumumba et du gospel.
Oui, en tout cas, c'est un jeune homme ardent et il y a l'ardeur dans ses yeux. Alors ça me fait penser là à un vers d'une poétesse russe, Marina Tsvetaeva, qui disait « Il y a toujours l'ardeur dans les yeux sous le soleil ». Et c'est un jeune homme qui comme ça, et en même temps, a épousé une foi extraordinaire, une foi religieuse, spirituelle extraordinaire, mais qui est pour lui sa propre connexion à sa propre mère. et une foi extraordinaire dans le Congo. Alors oui, il est l'héritier de la terre des prophètes et de ce Congo nouveau et futur.
Alors il y a plusieurs, là aussi, il y a plusieurs figures tutélaires. Il y a le pasteur Simon Kimbangu, que vous citez, et puis aussi un autre personnage qui n'est pas congolais, pour le coup, qui n'est pas roumain non plus, mais qui est haïtien. Il s'appelle Anténor Firme. Pourquoi vous êtes allé chercher cette figure-là ?
Alors, ce ne sont pas forcément des figures que je suis allée chercher, ce sont des noms qui viennent écumer le voyage congolais de Nili. Pourquoi ? Parce que cette inscription qu'elle va réussir comme ça à mettre en œuvre, à la fois en découvrant qui est son père, en épousant ses luttes, mais là pour le coup un peu par hasard, parce qu'elle se laisse entraîner, précipiter dans un mouvement citoyen par une jeune femme de sa famille. Et en même temps, donc, elle va rencontrer l'amour et aussi apprendre la perte. Elle rencontre la mort en même temps qu'elle rencontre l'amour. Tout ce voyage intérieur, géographique, mental, spirituel, est également un voyage à travers, comment dire, des sortes d'ancêtres où elle va aller puiser une nourriture pour se construire, elle, en tant que femme, aujourd'hui au Congo. Et je trouvais intéressant et important qu'elle ait cette liberté d'aller regarder, y compris en dehors de l'Afrique, mais qui est toujours quelque part l'Afrique, en tout cas spirituellement. Alors, Anténor Firme est là tout simplement parce que l'enfant qu'elle porte, eh bien, le père de son enfant, voulait prénommer cet enfant Firme. Et donc ça fait écho comme ça chez elle à toujours une sorte de filiation qui est à la fois familiale et en même temps politique et spirituelle, parce que elle, en devenant la fille de son père, elle embrasse aussi qui est son père. Et son père est une porte ouverte vers toutes ces dimensions assez libératrices pour elle.
Et la lutte de son père, c'est la lucha. Alors c'est quoi la lucha, Anilu ? Là aussi, on est dans l'histoire contemporaine.
Oui, la lutte du père de son enfant. Alors, j'ai dédié ce roman à la mémoire de Luc Nkulula, qui était un jeune homme, cela fera au mois de juin prochain 3 ans qu'il a perdu la vie, qui était un jeune homme très engagé dans un mouvement citoyen au Congo RDC. La Lucha, qui n'est pas un mouvement politique, c'est pas un parti, c'est un mouvement citoyen de jeunes gens qui ont décidé de s'engager au quotidien dans le cadre aussi d'actions comme des manifestations, des actions symboliques, mais également dans les rues de leur ville, que ce soit Goma, Kinshasa, Lubumbashi, dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais, par des gestes parfois très concrets, très pratiques, et qui se battent aujourd'hui pour avoir un Congo debout et pour que les citoyens congolais soient respectés en tant que citoyens et en tant que peuple. Et donc Nili va se retrouver happée dans ce mouvement, un peu malgré elle, puisque c'est sa petite cousine qu'elle vient de rencontrer qui l'emmène à une manif sans lui demander son avis. Et là, elle va rencontrer le Congo à travers cette jeunesse extraordinaire, parce qu'elle va partager avec eux ce sens de la lutte et ce sens de la vie.
Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, et c'est vrai que c'est assez étonnant, Nilulu, quand on lit votre roman, qu'elle se sent finalement beaucoup plus à l'aise dans ce Congo-là, même si c'est un pays en proie à des violences, et à des violences absolument incroyables, à une répression aussi des manifestations qu'on vient d'évoquer, beaucoup plus à l'aise dans ce Congo-là, pays d'adoption finalement, que dans sa Roumanie natale.
Oui, parce que Nili, au fond, est une jeune femme roumaine qui a grandi en Roumanie. Alors on pourrait, imaginer une jeune polonaise qui irait en Éthiopie. On se retrouverait dans le même genre d'espace qui paraît difficile à combler. Et elle se trouve elle-même, effectivement, dans un lieu, sur une terre auquel elle est étrangère, en quelque sorte. Mais son sentiment intérieur, pas d'appartenance, mais vraiment d'inscription, qui passe par sa filiation, passe par l'importance de sa métamorphose en tant que fille et en tant que future mère, fait que non, le Congo est son pays et elle est la fille du peuple congolais de manière extrêmement naturelle, de manière extrêmement intense aussi. Et ce déplacement géographique, c'est vraiment un déplacement de son regard, c'est vraiment un déplacement de son être, de sa spiritualité, c'est un déplacement qui lui permet de devenir une femme. Et la raison pour laquelle, finalement, le Congo devient la terre où elle veut donner naissance, la terre qu'elle n'envisage jamais de quitter, malgré le contexte extrêmement difficile et les épreuves auxquelles elle va devoir faire face, eh bien, c'est parce que c'est là que la métamorphose a lieu, c'est là que sa véritable naissance a lieu.
Donc un roman d'initiation, et pourtant le roman d'une mère qui donne la vie. Et donc on parlait au début de cet entretien d'une deuxième naissance. Alors on ne va pas raconter évidemment la fin, il y a quand même une note d'espoir à la fin du roman. Et vous disséminez cet espoir tout au long de votre récit. Et la mère dit à son fils à la fin du livre, « J'ai confiance dans le Nyiragongo et j'ai confiance dans le lac ». Est-ce que vous aussi, Annie Lulu, vous avez confiance ?
Bien sûr, j'ai confiance dans le lac, dans le scintillement du lac. J'ai confiance dans l'abondance d'humanité qui rendra les choses possibles et qui rend déjà les choses possibles au Congo aujourd'hui. Avec, bien entendu, des obstacles terribles, parfois l'horreur, mais toujours la force de vie. Et je crois que ce roman raconte l'histoire d'une fille qui cherche son père, qui va devenir une mère, parce qu'en cherchant son père, elle va au Congo, et au Congo, elle apprend la force de vie. Cette force, Makassi, son nom, vient de quelque part. Et il ne vient pas simplement du fait que son père s'appelle ainsi, mais il vient du fait que son père est congolais. Et il y a quelque chose, alors pas simplement de l'ordre de la confiance ou de l'espoir, mais il y a quelque chose de l'ordre pour moi d'une nourriture pour le futur immense au Congo, bien entendu, et dans cette jeunesse extraordinaire qui se bat au quotidien pour changer ce pays aujourd'hui.
Merci beaucoup, Annie Lulu, d'être venue nous voir dans VMDN. La mer Noire dans les Grands Lacs, votre premier roman est paru chez Julliard. Il y en aura un deuxième,
oui,
un troisième.
Oui, aussi, je pense.
Voilà, vous êtes déjà sur la ligne de départ, j'imagine.
Oui, j'ai déjà commencé l'écriture de mon deuxième roman il y a un an environ.
Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, ce premier roman, La mer Noire dans les Grands Lacs, les auditeurs vont pouvoir essayer de le gagner en répondant à la question du jour à partir de la page Facebook de l'émission en message privé, bien évidemment. Alors, la question, elle est hyper simple, hein, vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps en plus. Quel est le nom de famille du père de Nelly ? À vos claviers.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et avant de se quitter, un petit détour par les Balkans, pas très loin de la Roumanie d'ailleurs, nous partons en Bulgarie. Alors que les lieux culturels sont à l'arrêt, comme vous le savez en France, la Bulgarie a, elle, décidé de laisser ses salles de spectacle ouvertes. Alors selon quelle modalité et peut-on s'en inspirer ailleurs ? Reportage à Sofia de notre envoyé spécial Antoine Pecker.
À l'entrée de la Philharmonie, les ouvreurs prennent la température des spectateurs. Le public masqué vient assister à un concert de l'orchestre de Sofia. Le protocole sanitaire est strict. Seuls 30% de la jauge de la salle peut être occupée. Entre chaque spectateur, deux sièges doivent rester vides. Sur scène, les musiciens se lancent dans la symphonie de chambre de Shostakovich. À l'issue du concert, nous retrouvons en coulisses le chef d'orchestre Naïden Todorov, directeur musical de la Philharmonie de Sofia. Il est ravi que le gouvernement bulgare soit l'un des rares en Europe à laisser les salles de spectacle ouvertes pendant la crise sanitaire.
C'est très drôle, car les Bulgares sont connus pour ne pas vouloir vivre en Bulgarie. On croit toujours que les gens vivent mieux ailleurs dans le monde. Et maintenant, à cause du Covid, c'est peut-être la première fois dans l'histoire que nous voulons rester en Bulgarie, que nous sommes heureux car nous pouvons travailler ici.
À quelques centaines de mètres, toujours dans le centre historique de Sofia, se trouve le théâtre satirique. Il n'a fermé que 2 semaines depuis le début de la pandémie. Son directeur Kalin Sarmenov nous explique comment il a adapté les pièces.
On a organisé des répétitions spécifiquement pour les scènes où les acteurs étaient normalement très proches. Quand ils se touchaient, ils s'embrassaient. Il a fallu les remplacer pour garder de la distance sur scène. Il y a plein de manières possibles de montrer ou de dire « je t'aime ».
Un immeuble un peu décati, construit à l'époque communiste, abrite le ministère de la Culture. C'est le ministre Bolbanov qui a donné l'autorisation aux salles de spectacle de poursuivre leur activité. Il nous explique qu'il n'y a pas de risque de cluster dans les lieux culturels.
Dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de mesures sanitaires en place, mais il est très difficile de contrôler leur mise en œuvre et leur respect. Tandis que dans les lieux culturels, on peut bien mieux contrôler. Il y a une vraie garantie.
Ils peuvent les assurer, mais ils peuvent les garantir.
Pour autant, tout le secteur culturel n'est pas logé à la même enseigne. Dans une ancienne usine reconvertie en studio d'enregistrement et en galerie d'art, à l'écart du centre-ville, le trompettiste de jazz Mikhail Yosifov est en train de répéter, mais lui ne peut pas se produire en concert.
Les clubs de jazz sont des petits espaces. Si vous devez vous limiter à 30% de votre capacité, cela n'a pas de sens d'ouvrir. Je ne pense pas que les propriétaires de clubs le souhaitent.
Les artistes indépendants, notamment dans les musiques actuelles, se sentent délaissés au profit des grandes institutions. Et ils sont nombreux à participer aux mobilisations qui se tiennent chaque jour pour dénoncer plus globalement la politique du gouvernement et en particulier les affaires de corruption. Un climat politique qui se tend à l'approche des élections législatives du 4 avril prochain. Et c'est une autre musique qui se fait entendre dans les manifestations, l'hymne bulgare, devenu le chant de ralliement des protestataires.
Reportage d'Antoine Pecker pour VMDN dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. À demain avec tout à fait autre chose, nous recevrons l'auteur de bande dessinée Baptiste Pagani pour son album Les Larmes d'Ashura, publié chez Ankama, label 619, et vous m'en direz des nouvelles.